Ce qu'il faut, sire, c'est trouver le passage.
Et où est-il, ce passage? Ce célèbre passage que personne n'a vu?
Bonsoir. Aujourd'hui, dans le fil de l'histoire, le voyage de Magellan, succès ou échec? Le matin du 10 août 1519, il y a foule à Séville sur les quais du Puerto de las Muelles pour assister au départ de la flotte de Magellan. Certains pleurent, d'autres se signent et prient, car combien seront-ils à revenir? Tout le monde le sait, cette expédition sera longue et périlleuse. 5 bateaux ont été armés, des caracs, portant tout le pavillon de Charles Ier, roi d'Espagne, la Trinidad, le navire amiral commandé par Magellan, le San Antonio, la Concepción, le Santiago et la Victoria. Des navires entre 20 et 30 mètres de long, qui aujourd'hui nous sembleraient minuscules. À leur bord, des marins et des soldats venus de presque toute l'Europe, espagnols, mais aussi portugais, grecs, allemands, français. Un équipage cosmopolite rassemblé par l'appât du gain et la promesse de gloire. Parmi eux se trouve un jeune noble vénitien.
Votre nom ?
Antoine de Pigafetta, chevalier de Vicence.
Avez-vous déjà navigué ?
Non, jamais. Permettez-moi, capitaine général, de vous remettre ce mot de sa sainteté le pape.
Je recommande à votre bienveillante attention le chevalier Antonio de Pigafetta. Mais que savez-vous faire ?
Écrire.
Enrique !
Seigneur !
Occupe-toi de ce jeune chevalier, il vient avec nous.
Antonio Pigafetta, un des rares membres de l'équipage qui auront la chance de revenir à Séville en 1522. Pendant tout le voyage, Pigafetta tiendra un journal de bord, un témoignage précieux qui est parvenu jusqu'à nous. Les cales des 5 navires sont pleines à craquer. D'abord de vivres, pour nourrir tout ce monde, et tenir en mer en principe pendant 2 ans. Mais aussi des objets de pacotille qui serviront pour le troc.
2000 quintaux de biscuits.
47 quintaux d'huile.
57 quintaux de cochon séché.
1 tonne de pois chiches, haricots et lentilles.
250 chapelets d'ail.
500 muits de vin de Kérès.
7 vaches et 2 cochons.
16 tonnes de figues.
12 quintaux d'amandes.
Du sel, de la moutarde.
Des remèdes, des onguents, de l'eau distillée.
20 000 petites
choses. France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Arrive l'heure de quitter Séville. Au son des cloches et sous les acclamations des Sévillans, les 5 navires larguent lentement les amarres et entament leur descente du Guadalquivir vers la mer. Arrivés à l'embouchure du fleuve, ce n'est que 6 semaines plus tard, le 20 septembre 1519, une fois les vents favorables, que la flotte de Magellan hisse les voiles vers le large. Cette fois, c'est le grand départ, le vrai, à travers l'océan Atlantique. Ce voyage se révélera un des plus grands exploits maritimes de tous les temps. Explorant des routes jamais empruntées jusqu'alors, de nouvelles terres, un nouvel océan, rencontrant des peuples inconnus et passant par les pires épreuves, maladies, tempêtes, batailles, mutineries, exécutions. Ce départ est un véritable saut dans l'inconnu pour les 237 hommes qui composent l'équipage. D'autant que seuls Magellan et ses pilotes connaissent la route et le but de l'expédition. Mais ce but, quel est-il? Et pourquoi le garde-t-il secret? Pour nous, Magellan est un véritable héros, le premier navigateur à avoir accompli le tour du monde. Mais Magellan a-t-il toujours été un héros? Pour ses contemporains, qu'ils soient portugais ou espagnols, son voyage fut-il une réussite ou un échec? Toutes ces questions, on se les pose ce soir avec vous, Michel Chandaigne. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éditeur et spécialiste des grandes découvertes. Michel Chandaigne, pour bien comprendre l'importance de ce que sera ce voyage de Magellan, pouvez-vous nous rappeler quel est côté européen, en tout cas l'état des connaissances sur le monde, la cartographie, les routes maritimes en ce tout début du XVIe siècle? Qu'est-ce que l'on sait et qu'est-ce qu'on ne sait pas?
On sait beaucoup de choses. D'abord, contrairement aux idées reçues, on savait parfaitement que la Terre était ronde. On connaissait l'existence du Pacifique depuis 1513. Et depuis le voyage des Portugais en Extrême-Orient, 1512, on avait une très bonne idée de la dimension du Pacifique. Et quand Magellan a pris la mer, eh bien, dans son mémoire et dans la carte qu'il présente, on voit que déjà, le Pacifique est dans ses dimensions quasi actuelles, à très peu de choses près. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le Pacifique serait vide pour lui. Il ne rencontre aucune île, aucune escale. Alors, la question, c'était aussi, est-ce qu'il y a un passage au sud de l'Amérique? En gros, l'Amérique était connue jusqu'au Rio de la Plata. il y avait des rumeurs, des bruits. On imaginait qu'il y avait un passage, comme en Afrique, il y a le Cap de Bonne-Espérance, mais on ne savait pas si l'Atlantique et l'océan Indien étaient une seule mer, fermée. C'est ce qu'a prouvé le voyage de Magellan. C'est vraiment qu'il y avait un passage au sud de l'Amérique, et il l'a découvert, bon, c'est le détroit de Magellan, et qu'il n'y avait qu'une seule mer, et que toutes les mers communiquaient d'un océan à l'autre.
Il y a une chose importante à rappeler, Michel Chandaigne, il me semble, c'est le traité de Tordesillas en 1494 qui coupe un petit peu de manière très arbitraire même, on peut le dire, le monde en deux, les terres qui sont découvertes par les Portugais et les terres découvertes par les Espagnols.
Oui, alors c'est pas tout à fait arbitraire parce que les Portugais en 1488 découvrent la route des Indes en doublant le cap de Bonne-Espérance et bon, Vasco de Gama réalisera ce voyage aux Indes 10 ans plus tard et Colomb découvre des terres. Tout le monde est persuadé qu'on est dans les parages de la Chine et qu'il est persuadé que Haïti c'est Cipangou, c'est le Japon et cette illusion va durer un certain temps. Donc le pape qui est espagnol a peur que les puissances ibériques se battent en Asie pour la possession des comptoirs des royaumes et leur demande de s'entendre. Alors il propose de couper le globe en deux verticalement avec une ligne au milieu de l'océan.
L'océan Atlantique,
voilà, à 100 lieues à l'ouest des îles du Cap-Vert. Et là, les Portugais refusent l'intercession du pape, et ils vont discuter avec les Espagnols, et ils fixent ce méridien à 370 lieues, quoi, à l'ouest des îles du Cap-Vert, et il se trouve que ça va passer par le Brésil. Alors, est-ce que les Portugais connaissaient en 1494 le Brésil?
Ah, oui.
Il y a une discussion. On peut le supposer, mais il n'y a aucune preuve. Tout ce qui est à l'est de cette ligne appartient aux Portugais, c'est le domaine exclusif des Portugais.
Dont fait partie l'Afrique.
L'Afrique, bien sûr, et tout ce qui est à l'ouest va être le domaine espagnol. Il faut bien penser qu'à l'époque, les Portugais et les Espagnols pensent se partager l'Asie. Donc en gros, les Espagnols pensent avoir gagné la Chine et l'Asie jusqu'à l'Inde, et puis les Portugais qu'ils auront l'Afrique jusqu'à l'Inde. Mais justement, le voyage de 1512 va tout changer et va faire apparaître le Pacifique. Et soudainement, les Espagnols se retrouvent avec juste une partie de l'Amérique et un océan vide.
Alors, qui est ce Fernand de Magellan et quelle est son idée? D'abord, c'est un Portugais va embarquer sur, le roi d'Espagne. C'est assez curieux.
Il est né à Porto, il est engagé sur des flottes portugaises, il est de la petite noblesse, et il va se battre en Inde et naviguer de 1505 à 1512. Et il va revenir à Lisbonne et se battre au Maroc en 1513. Sa carrière militaire va être bridée au Portugal. Il va pas pouvoir repartir en Inde, et ça c'était son rêve, parce qu'il avait son grand ami, Francisco Serrão, qui était arrivé jusqu'aux Moluques, les îles aux épices, et qui lui écrivait des lettres pour qu'il le rejoigne. Et Magellan voulait retrouver son ami, et il espérait le faire sur les bateaux portugais. Mais voyant que les bateaux portugais ne le prenaient pas, il ne serait pas engagé, ben il a décidé de proposer au roi d'Espagne, un projet qui allait permettre de rejoindre son ami Serrão, mais par l'ouest, dans la partie espagnole du monde. À vrai dire, le voyage de Magellan est motivé d'abord par une histoire d'amitié.
Ah d'accord, je pensais que c'était pour les épices des îles Moluques.
C'est secondaire. C'est-à-dire, si les Portugais l'avaient rembauché sur les flottes, ils auraient rejoint Serrão et ils auraient passé des jours heureux avec leur famille là-bas. Non, pour vendre le projet au roi d'Espagne, il faut l'appât du gain. Donc, comme les îles Moluques, c'est les seules îles au monde où sont produites où est produite le girofle.
Le clou de girofle. Qui coûte extrêmement cher.
Voilà, l'idée de Magellan, c'est que les Moluques sont dans la partie espagnole du monde et il lui vend le projet en lui faisant miroiter un bénéfice de lucre. Les épices sont venues secondairement. Il n'y aurait pas eu son ami Serrão Moluques, il aurait eu un autre projet.
Et donc, il propose son idée au roi Charles Ier d'Espagne, qui lui donne finalement son accord le 22 mars 1518. Le contrat définitif est conclu, mais les Portugais ne sont pas contents.
Les Portugais, depuis 1512-1513, captent en gros le commerce à la fois des girofles et de la noix muscade. Donc l'idée qu'il y a un projet concurrent espagnol qui leur les dépouille des Moluques, bien sûr, le roi est furieux et va mener une campagne contre Magellan. Mais faut bien penser que les Moluques, on ne sait pas très bien dans quelle partie du monde elles sont. Donc les Portugais y ont accès, mais en effet elles sont peut-être dans la partie espagnole et c'est ça qui déplie aux Portugais.
C'est ça que veut voir Magellan justement.
Magellan parie sur le fait que les Moluques sont dans cette demi-hémisphère espagnole.
Le 20 septembre 1519, avant de quitter l'Espagne, Magellan ordonne à ses hommes de se confesser et aussi, curieusement, qu'il n'embarque pas de femmes à bord. Enfin, arrive l'heure du grand départ. La Trinidad, le navire amiral commandé par Magellan, le San Antonio, la Concepción, le Santiago et la Victoria mettent le cap au sud-ouest en direction des îles Canaries. Pour l'instant, l'itinéraire, qui suit de loin la côte africaine, est bien connu de Magellan. Il l'a souvent emprunté quand, par le passé, il naviguait pour le compte du Portugal. Après une escale à Tenerife, le temps de prendre des vivres, du bois et de la poix, ce goudron qui sert à calfater les coques, les cinq caracs de Magellan repartent en direction du Cap-Vert, au large de l'actuel Sénégal, puis poursuivent leur route le long de la côte africaine jusqu'au niveau de la Sierra Leone. C'est là seulement que l'expédition met le cap au sud-ouest, à travers l'Atlantique, en direction du Brésil. Juan de Cartagena, l'officier espagnol qui commande le San Antonio, ne comprend pas le choix de cette route. Mais Magellan refuse de lui donner des explications et exige qu'on lui fasse confiance. L'ambiance est de plus en plus tendue, et comme si ça ne suffisait pas, la traversée se révèle longue et difficile, angoissante même parfois. Antonio Pigafetta note dans le journal de bord « Nous naviguâmes sous la pluie l'espace de 60 jours jusqu'à l'équateur, chose fort étrange et qu'on n'avait pas coutume de voir, selon les dires des vieilles gens et de ceux qui avaient navigué là plusieurs fois. Les tempêtes sont si violentes qu'à plusieurs moments, écrit Pigafetta, nous étions en pleurs, attendant seulement l'heure de périr. Et près de l'équateur, les longs calmes plats où il fait une chaleur étouffante et où, en absence de vent, il est impossible d'avancer, finissent de miner le moral de l'équipage. Mais l'arrivée au Brésil en décembre 1519, donc 3 mois après le départ d'Espagne, apporte du réconfort.
Henrique.
Seigneur.
Sais-tu le nom de cette baie ?
Ah non, seigneur Pigafetta.
Eh bien, elle s'appelle baie de Rio de Janeiro. Rio parce que les Portugais qui sont venus ici il y a quelques années ont cru se trouver en présence d'un fleuve, tant la baie est profonde. Et comme on était en janvier, Janeiro.
Nous traversâmes l'océan jusqu'à une terre nommée Verzine, raconte Antonio Pigafetta. À cet endroit, nous eûmes des vivres frais, comme des poules et de la chair de veau, ainsi que diversité du fruit nommé patate, pigne doux en singulière bonté et d'autres choses infinies. Dans l'hémisphère sud, c'est le début de l'été austral. Le 13 décembre 1519, Magellan décide de jeter l'ancre dans la baie de Santa Lucia, celle appelée aujourd'hui Rio de Janeiro. Rappelons que ce pays, appelé Verzine ou Brésil, a été colonisé par les Portugais seulement 19 ans plus tôt. Les habitants ne sont point chrétiens et n'adorent rien, écrit Pigafetta. Mais ils vivent selon l'usage de la nature plus bestialement qu'autrement. Les hommes et les femmes de ce lieu vivent nus, ils mangent la chair de leurs ennemis. Cependant, ils ne dévorent pas toute la personne qu'ils prennent, mais le mangent morceau par morceau. Nous demeurâmes 13 jours en cette terre des cannibales. Michel Chandaigne, comment s'est passée cette première partie du voyage ? L'ambiance à bord commence à être un peu difficile.
Oh, dès le départ, parce que le roi, enfin les autorités espagnoles avaient limité le nombre de Portugais à bord. Magellan voulait des officiers portugais en qui il avait confiance. Ils ont tous été remplacés par des capitaines espagnols. Et notamment Juan de Cartagena, qui est un personnage très étrange, sans doute le fils naturel de l'évêque Rodrigues da Fonseca, le ministre des Indes, et qui a clairement pour fonction d'éliminer Magellan à la première occasion. Les capitaines espagnols ont pour mission de l'éliminer. Mais Magellan est au courant. On l'a mis au courant de ce complot, donc il va saisir la première occasion pour mettre Juan de Cartagena au fer, prétextant une insolence. Et donc il va comme ça tout de suite étouffer la mutinerie qui déjà couvait dès l'Atlantique.
Et comment vivent les hommes à bord, les simples matelots ? Il y a une grande promiscuité, je pense.
Il y a une grande promiscuité, on se rend pas compte, mais on peut s'en rendre compte si on va sur une réplique de ces bateaux. C'est des bateaux. La Victoria fait 24 mètres de long. Il y a des vivres pour 2 ans, dont le tiers c'est du vin. Hein. si vous mettez 52, il y a 52 personnes, en gros une cinquantaine de personnes par navire. Si vous les mettez tous sur le pont, c'est le métro aux heures de pointe. Les gens sont serrés comme des sardines. sardines. Ils ne peuvent dormir que dans des recoins pliés en deux. On n'a aucune idée et aucun film ne rend compte de cette promiscuité absolue. À la limite, c'est que seulement dans les haubans qu'on est un peu tranquille.
Et comment s'est fait le recrutement? Tous ces marins, ce sont des professionnels
Non, enfin, il y en a. Sébastien Elcano, celui qui va faire le tour du monde. C'était pour échapper à une condamnation qui s'est engagée. Mais ils ont beaucoup de mal à recruter des mousses, des matelots pour un voyage que l'on sait très long, très dangereux. Ils ont beaucoup de mal à recruter. Il y a 237 hommes qui partent. Et ils vont puiser dans des marins ou des canonniers qui sont en escale à Sanlúcar ou à Séville. C'est pour ça qu'il y a 10 nationalités. Et souvent, on leur dit pas exactement où on va. Hein.
Oui, parce que Magellan ne le dit pas. Est-ce que,
oui, on sait que
Cartagena,
ça,
il l'a dit à Cartagena?
Oui, oui, tout le monde sait que c'est une flotte qui va aux Moluques. On l'appelle l'armada des Moluques, mais on ne connaît pas l'itinéraire.
Il faut bien préciser, Michel Chandaigne, donc l'idée de Magellan, c'est de trouver un passage au sud de l'Amérique, du sud, et d'arriver aux Moluques. Et après, son idée n'est pas du tout de faire le tour du monde, comme on le dit souvent, mais de revenir sur ses pas.
Par la même voie.
Par la même voie.
C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne voyager que dans la moitié du monde, qui est le domaine espagnol. Et même dans les instructions, il a l'interdiction de pénétrer dans la zone portugaise. C'est-à-dire, non seulement il n'a jamais parlé de tour du monde, il ne l'a jamais projeté, mais il avait l'interdiction de le faire. C'est pour ça que quand on parle de Magellan et du Tour du Monde, il y a bien sûr une association, parce que cette expédition a fini par un Tour du Monde imprévu.
C'est pas du tout prévu.
Mais c'est pas du tout l'objet de Magellan. Quand Zweig écrit Magellan s'élance pour son Tour du Monde, bon, il a fait un livre magnifiquement rédigé, mais qui est complètement obsolète et qui trouble l'idée générale.
Et en plus, Magellan ne sera pas là au moment où le Tour du Monde sera fait.
Oui, puis c'était pas son projet. Il aurait survécu, il aurait voulu revenir par la même voie. Mais il a découvert un passage au sud de l'Amérique et ça, c'était pas à gagner.
Ce voyage, on l'a entendu, et c'est aussi l'occasion de découvrir des peuples inconnus. Comment se passe cette rencontre avec les habitants du Brésil ?
Le Brésil était connu, puisque le principal pilote portugais y avait un fils, métis, qu'il recueille, qui va monter sur le bateau, Joanillo. Le Brésil était connu par les Portugais depuis 1500. Et en revanche, quand ils vont descendre le long de la côte argentine, ils vont rencontrer d'autres peuples, notamment les Tehuelches, qui vont être appelés Patagons, qui sont décrits comme des géants.
Il y a quand même un risque, hein, puisque 3 ans plus tôt, un navigateur espagnol, Jean de Solis, a été attaqué par ces cannibales, il a été mangé près du Rio de la Plata.
Oui, alors, oui, bien sûr.
Parce qu'il les a attaqués, probablement.
Non, c'est sûr que la vision de ces Européens sur des bateaux était plutôt un signe d'hostilité. Oui, il est descendu à terre. C'est un Portugais qui s'était fait espagnol, qui naviguait pour le compte de l'Espagne et qui, en 1516, a fait la première exploration du Rio de la Plata et qui a descendu à terre, qui s'est fait manger sous les yeux de ses
camarades
restés sur le bateau. Oui.
Est-ce que Antonio Pigafetta dit tout ? Parce qu'il y a d'autres témoignages.
Non. Alors justement, Pigafetta, on dit qu'il tient un journal. Oui et non, parce que on s'aperçoit que son journal, il l'a beaucoup reconstitué à la fin et en arrivant. Et par exemple, quand il arrive au Brésil, il parle de la langue des Indiens, mais il a appris aucune note, il se souvient de rien, donc il va puiser dans Martyr d'Anguira, un chroniqueur qui parle de colons. Pratiquement tous les mots brésiliens qu'il cite sont des mots, à vrai dire, arawak des Caraïbes. Et puis, il y a des tas de passages qu'il omet pour des raisons diplomatiques, entre autres parce que c'est Elcano qui va revenir, il déteste Elcano,
qui restera jusqu'à la Victoria, qui reviendra
la gloire du voyage, et il le cite jamais. Il faut dire que c'est un des mutins de l'expédition, et il parle pratiquement pas de la mutinerie, il y a plein d'épisodes dont il ne parle pas. C'est pour ça que publier 26 autres sources directes de marins, des correspondances, nous a permis de reconstituer l'intégralité du voyage, y compris pendant les silences de Pigafetta, qui sont très nombreux.
Super.
Dulce Pontes, Ai Solidum. Vous écoutez France Inter, le fil de l'histoire, en compagnie de Michel Chandaigne. Le 27 décembre 1519, après deux semaines de douceur dans la baie de Rio de Janeiro, la Trinidad, le San Antonio, la Concepción, le Santiago et la Victoria lèvent l'ancre et reprennent leur route vers le sud en direction de l'Antarctique, où ils croisent des îles couvertes de loups marins et d'oiseaux qu'ils n'ont jamais vus. Magellan guette un passage qui pourra les conduire à l'océan Pacifique. Pour l'instant, sans succès, ce qui ne fait qu'accentuer la méfiance des officiers espagnols. Plus la flotte progresse vers le sud du continent américain et dans l'hiver austral, et plus il fait froid. Magellan décide alors d'hiverner dans un port naturel auquel il donne le nom de San Julián. « Nous demeurâmes là deux mois entiers sans jamais voir personne », écrit Antonio Pigafetta. « Un jour, dit-il, nous vîmes un géant qui était au bord de la mer, tout nu. Il dansait, sautait et chantait, et en chantant, il mettait du sable et de la poussière sur sa tête. Il était si grand que le plus grand de nous ne lui venait qu'à la ceinture. Il avait un grand visage peint de rouge et ses yeux étaient cerclés de jaune. Aux joues, il avait deux cœurs peints. Ils n'avaient guère de cheveux à la tête et ils étaient peints en blanc. » Les hommes de Magellan vont rencontrer et même capturer d'autres de ces pseudo-géants auxquels ils donnent le nom de Patagon, qui par extension donnera celui de la région, la Patagonie.
Magellan nous tient-il au courant de ses projets? Non, il n'ose pas. Il trame un complot diabolique. Et si nous ne le frappons pas maintenant, c'est la mort qui nous attend.
Oui, oui, pendons-le!
Mettons-le à terre, qu'il y pourrisse et rentrons! Nous sommes forts, les hommes sont avec nous, frappons tout de suite!
Pour le moment, ouvrez vos cales, nourrissez vos hommes, armez-les et soyez prêts. C'est pour notre honneur et pour notre salut que nous allons agir.
Le 1er avril 1520, alors que la flotte de Magellan vient de se réfugier dans la baie de San Julián et que Pigafetta découvre et observe les étranges autochtones, à l'arrière, en secret, une mutinerie se prépare. Le jour où nous entrâmes dans le port de San Julián, écrit Pigafetta, les patrons des autres navires machinèrent une trahison contre le capitaine général pour le vouloir faire mourir. Ceux-ci étaient ainsi nommés Jean de Carthagène, conducteur de l'armée, le trésorier Louis de Mendoza, le conducteur Antoine Cocha et enfin Gaspard de Quesada. Toutefois, précise Pigafetta, la trahison fut découverte. Pour ce, le trésorier fut tué à coups de poignard, puis mis en quartier. Le Gaspard de Quesada eut la tête coupée et après, lui aussi, fut mis en quartier. Et le conducteur, Jean de Carthagène, fut banni avec un prêtre et laissé en cette terre nommée Patagonia. La situation est donc grave puisque les trois capitaines espagnols de la flotte, sur cinq au total, ne voulaient plus obéir à Magellan. Michel Chandaigne, avant d'évoquer cette mutinerie, pour bien comprendre la situation, est-ce la première fois que des Européens descendent autant au sud du Brésil? Est-ce que ce sont des mers, des terres totalement inconnues?
Oui, c'est la première fois, même si le quatrième voyage de Vespucci laisse un doute. Vespucci dit être descendu très au sud et il aurait reconnu une petite bout de côte non loin du détroit. Mais c'est un voyage qui est sujet à caution. Mais en gros, sa terre est inconnue, elle figure sur aucune carte, et c'est vraiment l'expédition de Magellan qui va la dessiner en premier. Ils espèrent trouver un détroit. On est vraiment en mer inconnue et en terre inconnue.
Est-ce que c'est ce côté inconnu, justement, qui suscite une peur et qui peut éventuellement susciter cette mutinerie ?
Oui et non, parce que en effet, on arrive dans des zones quand même très arides. Cette côte argentine, c'est un désert, c'est hostile, c'est pas des forêts luxuriantes,
oui.
Fait froid. Les hommes sont exténués quand même, ils sont inquiets, et les Espagnols sont là clairement pour remplacer Magellan. Depuis le début, Juan de Cartagena est au fer hein, depuis des mois. Hein. Il a pas quitté.
Être au fer, ça veut dire quoi ?
Bah être prisonnier. Hein.
Il est enfermé dans une.
Il a des chaînes aux pieds. Donc c'est très facile pour les capitaines espagnols de lever une partie de l'équipage mécontent contre Magellan, mais faut bien voir quand même qu'une grande partie des Espagnols sont restés fidèles à Magellan, et notamment ce qu'on appelle le prévôt, c'est-à-dire le capitaine des gendarmes, Gonzalo Gomez de Espinosa, qui lui va retourner la situation en poignardant de manière audacieuse un des chefs des mutins. En une nuit, la situation va se retourner, et les Espagnols vont se rallier à Magellan. Je dis les Espagnols parce qu'ils sont majoritaires, même s'ils ne sont pas les seuls, il y a des Italiens, etc.
Il y a des punitions quand même très sévères.
Oui, alors c'est ça.
Il y a des hommes décapités,
coupés en
morceaux.
Ben, sévère, oui, non. C'est-à-dire une mutinerie, il y a 40 mutins qui sont condamnés. Il y a un procès, 40 mutins sur les 200 et quelques, c'est pas si énorme que ça. Un des chefs est décapité. Juan de Cartagena, il peut pas le tuer. C'est un grand d'Espagne, ses liens avec l'évêque sont tels que... Mais il va l'abandonner sur la côte en partant.
Oui, ça c'est terrible
avec
aussi.
Avec son confesseur, oui, mais enfin, il ne le tue pas, il l'abandonne.
Non, mais il a une chance de survivre.
Oui, de se mêler aux Tehuelches. D'ailleurs, peut-être qu'il a fini sa vie avec les Tehuelches, on ne sait pas.
Les Indiens locaux.
Et donc, il en exécute qu'un, et il amnistie les 40 autres. Donc, c'est plutôt clément. Il fait subir l'estrapade.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est une sorte de soie à l'élastique, mais sans élastique, avec une corde, et la personne était plongée dans la mer, et puis on l'a relevée, ça s'était fait plusieurs fois. Il y a quand même trois hommes hein, qui subissent l'estrapade, mais c'est quand même très clément. Et pourquoi ? Il aurait pu en tuer beaucoup plus, il aurait dû. Il a besoin de ses hommes.
Donc après avoir réprimé cette mutinerie, Magellan décide de reprendre la route vers le sud et poursuivre la recherche du fameux passage. Après avoir navigué et atteint le 52e degré du ciel antarctique, écrit Antonio Pigafetta, le jour de la fête des 11 000 Vierges, nous trouvâmes un détroit que nous appelâmes le Cap des 11 000 Vierges, lequel détroit est environné de fort grandes et hautes montagnes chargées de neige. Magellan alors envoie en reconnaissance deux de ses navires, le San Antonio et la Concepcion, pour explorer ce détroit. Deux jours plus tard...
Oh, c'est le San Antonio qui débouche du détroit.
Il tire des salves d'artillerie et il est pavoisé. C'est magnifique. Le détroit est découvert.
Et voici derrière lui la Concepcion. Elle aussi pavoisée. Mon Dieu, le détroit est découvert.
À leur retour, en effet, la joie est immense. Ils nous dirent qu'ils avaient trouvé le cap et la mer grande et large. Magellan lui-même ne peut cacher son émotion. Alors, écrit Pigafetta, le capitaine général, de la joie qu'il eut, commença à pleurer. Et il nomma le cap, cap du désir, comme une chose bien désirée et de longtemps. Michel Chandaigne, cap du désir, c'est le nom donc qui convient, on peut le dire. Ça fait longtemps que Magellan désire ce cap ouvrant sur le Pacifique. C'était un sacré pari, très incertain.
Oui, alors le cap du désir, c'est le cap des Éados aujourd'hui. C'est le cap qui se trouve de l'autre côté du détroit.
Oui.
En effet, ils rentrent dans le détroit finalement assez facilement. Et de proche en proche, les bateaux rentrent. La traversée du détroit est très facile. Et à un moment, ils descendent vers le sud. À un moment, le détroit bifurque vers la droite.
C'est un chemin sinueux. Hein.
C'est sinueux, mais ça se passe bien. Ils n'ont pas de courant contraire. Les vents sont bons. Ils descendent très très vite, à vrai dire. Et c'est au milieu du détroit... Ils ont le sentiment que, disons, ça sent bon, hein, qu'on est toujours dans l'eau de mer, c'est sans doute un détroit, qu'un des bateaux décide de déserter. Et là, c'est le grand événement de cette traversée. Le San Antonio, il y a un pilote qui est portugais, Estevão Gomes, qui va prendre le pouvoir et rentrer à Séville, avec 55 survivants, 55 hommes. Il avait proposé ce... ce projet, cette expédition au roi. Donc il est furieux d'avoir été évincé.
Par jalousie.
Donc l'idée, c'est, on a découvert le détroit, je rentre à Séville, on va me donner une grande flotte, et là je vais le traverser d'un coup pendant que l'expédition de Magellan...
Oui, en faisant croire que c'est lui qui l'a trouvé.
Oui, ou dénonçant Magellan, ce qu'il va faire à Séville, de ses actes infâmes contre les capitaines espagnols. Il va complètement médire contre Magellan. Donc c'est son projet, ça va pas marcher, mais là il va déserter, il y a un gros problème. C'est le plus gros navire de la flotte.
C'est avec... celui qui transporte beaucoup de vivres.
Beaucoup de vivres, beaucoup d'hommes, et donc l'expédition est vraiment vouée à l'échec. Et donc ils vont se réfugier pendant 2 semaines au milieu du détroit, dans la baie des Sardines, et là Magellan va demander leur avis, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas.
Octobre 1520, cela fait plus d'un an que Magellan et sa flotte ont quitté l'Espagne, et 10 mois qu'ils ont quitté Rio de Janeiro pour aller explorer la côte sud-américaine en direction de l'Antarctique. Le 21 octobre, le fameux passage que l'on n'espérait plus est enfin trouvé. Une grande victoire pour Magellan. Avec sa flotte, il met un mois à parcourir vers l'ouest les 611 kilomètres sinueux de ce détroit qu'il décide d'appeler Patagonico, mais qui un jour prendra le nom de détroit de Magellan. Avec ses montagnes abruptes, ses eaux profondes et ses violentes bourrasques, le paysage est plutôt austère. Pourtant, pour notre chroniqueur Antonio Pigafetta, il n'y a pas au monde plus beau pays et de meilleur détroit que celui-là, puisqu'on y trouve du bois de cèdre, du poisson en abondance, mais aussi une herbe fort douce appelée apio. Ne trouvant pas autre chose, raconte-t-il, nous en mangeâmes plusieurs jours. Une herbe, sorte de céleri sauvage, dont les marins de Magellan vont même faire des conserves avec du vinaigre. Nous le verrons, ce céleri sauvage aura une grande importance pour la suite du voyage, puisqu'elle va probablement sauver la vie de nombreux marins.
L'océan.
L'océan.
Nous débouchons sur l'océan.
Enfin, quel calme.
Quelle immensité. L'océan Pacifique.
Le 28 novembre 1520, enfin, les navigateurs atteignent l'embouchure du détroit et se retrouvent face à l'immensité de l'océan Pacifique. Mais à cette date, avant d'entamer la grande traversée, la flotte de Magellan ne ressemble plus à celle du départ. Elle est réduite à 3 navires au lieu de 5. Le Santiago a fait naufrage. Par chance, son équipage et sa cargaison ont pu être sauvés. Autre perte, celle du San Antonio, qui lui a déserté et est retourné en Espagne en emportant une grande partie des vivres. Ne reste donc dans l'aventure que la Trinidad, le navire amiral commandé par Magellan, la Concepcion et la Victoria, et en tout, 166 hommes.
Maître, les hommes sont trop faibles pour grimper dans la mâture, hisser les voiles. J'ai essayé à coups de garcette, rien n'y fait.
Distribuez ce qui reste de vivres.
Au fond des tonneaux, il n'en reste rien. Peut-être un peu de poudre de biscuit, encore elle est puante et des rats ont fait dessus.
Y a-t-il de l'eau ?
Les réservoirs d'eau ont une odeur de charnier, oui, de charnier.
De la traversée du Pacifique, Antonio Pigafetta fait un récit plutôt apocalyptique. Nous demeurâmes 3 mois et 20 jours sans prendre vivres ni autre rafraîchissement. Nous ne mangions que du vieux biscuit tout plein de verre et puant de l'urine que les rats avaient fait dessus. Et nous buvions une eau jaune infecte. Nous mangions aussi les peaux de bœufs dont était faite la grande vergue. Le pire mal était que les gencives de la plupart de nos gens croissaient dessus et dessous si fort qu'ils en mouraient, tant il en mourut 19. Michel Chandaigne, Antonio Pigafetta fait un récit assez terrifiant de la traversée du Pacifique, car visiblement l'équipage n'a plus rien à manger ni à boire et présente tous les symptômes du scorbut, cette maladie due à une forte carence en vitamine C. Mais vous, Michel Chandaigne, vous dites qu'il n'y a pas eu tant de morts que ça, pas d'hécatombe que Pigafetta exagère.
Il écrit 19. En recoupant toutes les sources, la liste des morts, on peut dire qu'il y a eu 9 morts hein, jusqu'au Marianne et pas 19. Sans doute une coquille initiale, il n'y a eu que 9 morts. 9 morts sur 166 marins, c'est la traversée la moins mortifère de tout le XVIe siècle. Et il faut savoir que le scorbut se déclare au bout de 68 jours de carence en vitamine C. Les hémorragies commencent, ça devient grave. Et là, il y a un mystère, parce que la seconde traversée, celle d'Elcano, 4 ans plus tard, et de Loaiza, a fait 40 morts sur un bateau de 65 personnes.
Mais ils n'avaient pas mangé céleri.
Le céleri les a sauvés. C'est-à-dire que la désertion du San Antonio a provoqué une escale. Les marins sont oisifs, ils mangent du céleri. Si le San Antonio n'avait pas déserté, ils n'auraient pas fait cette escale, ils n'auraient pas mangé de céleri, ça aurait été l'hécatombe. Donc, manger du céleri, ça permet de mettre à zéro les compteurs en vitamine C, mais vous savez, la vitamine C, ça sert à rien, on ne peut pas faire de réserve. Hein. On a un certain taux, au-delà du taux, c'est éliminé. En revanche, faire des conserves dans du vinaigre, c'est acide, ça conserve la vitamine C. Donc, ils ont pu en manger, enfin une bonne partie, pendant la traversée. Ce qui est étonnant, c'est que la plupart des morts ont lieu au début. Alors, est-ce que ce sont des gens carencés, qui n'aiment pas la céleri, je ne sais pas. Et ils ont tous sur la Victoria. Les 9 morts sont sur le même bateau, la Victoria. Et là, on a déterminé pourquoi. C'est parce que c'est la Victoria qui va à la recherche du San Antonio pour essayer de voir s'il a eu des avaries et qui constate sa désertion. Donc, ils vont passer 8 jours loin de la baie des Sardines. Donc, c'est l'équipage qui a pu le moins se nourrir de céleri et le moins faire des conserves.
Le 6 mars 1521, l'expédition fait sa première escale aux îles paradisiaques des Mariannes. Quel choc pour ces hommes qui sortent de l'enfer. Après avoir fait provision de vivres, Magellan et sa flotte prennent ensuite la direction des Philippines, où ils débarquent 10 jours plus tard. Là encore, les hommes sont éblouis par les paysages, les oiseaux multicolores et les indigènes qui semblent pacifiques.
Des indigènes, approche.
Ils ne sont pas armés. Ils dansent, ils font même des signes amicaux.
Certains portent des paniers chargés de fruits.
Sur l'île de Cebu, les Européens réussissent à convertir les habitants au christianisme. Magellan espère faire de même sur l'île de Mactan, mais Lapu-Lapu, le roi de cette île, refuse de se soumettre.
Ces Indiens sont un millier et nous ne sommes que 40. Restez en arrière, je vous en supplie.
La Sainte Vierge sera juge de la gloire. Il fait assez clair maintenant. Finissons-en rapidement, viens dans les vagues.
Sûr de sa supériorité, Magellan lance une attaque avec 60 hommes en armure et dotés d'arquebuses. Mais ce 27 avril 1521, Magellan trouve la mort, atteint par une flèche empoisonnée. Michel Chandaigne, Magellan meurt donc sans avoir réalisé son but, atteindre les îles Moluques. Là, on se rend bien compte que Magellan n'était pas qu'un navigateur à la recherche de routes commerciales, c'est aussi un colonisateur, un missionnaire qui massacre, que ce soit aux îles Mariannes ou aux Philippines.
Dans les instructions royales, il est bien dit qu'en aucun cas il ne faut combattre les indigènes ou leur faire du mal. Donc Magellan l'a désobéi 2 fois. Bon, aux Mariannes, c'est parce que les habitants leur avaient volé la chaloupe, puis ils mouraient de faim, donc ils sont débarqués, ils ont commis quelques massacres pour se nourrir. Et à Cebu, c'est différent. Magellan cherche à faire un accord avec le roi de Cebu, un accord commercial sur lequel il pourra toucher un pourcentage, une rente. Dans le journal d'Albo, il est très clairement dit que quand Magellan arrive aux Philippines, eh bien, on est déjà passé, il y a des mesures de longitude qui sont estimées, qui sont pas exactes, mais on est déjà passé dans la partie portugaise du monde. Donc Magellan, arrivé aux Philippines, comprend que toutes ces îles ne sont pas dans le domaine espagnol, mais portugais, et sans doute les Moluques sont dans le domaine portugais. Et c'est pour ça que pendant 42 jours, il va errer d'île en île, il va aller à Cebu, on doit une plus quoi faire. Et pour lui...
Mais c'est un échec pour
c'est
lui.
C'est un échec. C'est-à-dire, il voulait rapporter la possession des Moluques qu'il prétendait être dans le domaine espagnol. Il se rend compte que ce n'est pas le cas. Enfin, là, je développe une hypothèse, on lit le journal d'Albo. Et il sait qu'il ne peut pas revenir au Portugal, parce qu'il est un traître, il serait exécuté. Il ne peut pas revenir en Espagne en ayant échoué, parce qu'il a fait déporter Cartagena, condamner les capitaines espagnols, et donc lui aussi finirait en prison et sans doute exécuté. Et il a cette mort très bizarre, où il va se battre à 1-100 contre les autochtones de Mactan, ressemble pour moi, mais pas seulement pour moi, pour des historiens comme Garcia, l'historien portugais le plus étudié Magellan, un acte manqué. Un homme qui sait plus quoi faire et qui préfère mourir en soldat, les armes à la main, plutôt qu'en paria, prisonnier. Il est coincé, il peut pas retourner dans sa patrie. Alors, il peut aller aux Moluques, mais il n'y va pas. Et on sent un homme qui avait une volonté de faire et soudainement qui est indécis et qui meurt bêtement en désobéissant au roi Et ça ressemble vraiment à... oui, un acte manqué d'un homme qui veut une belle mort, hein, ou une belle mourir, voilà.
Mais ces autochtones qui se sont battus donc contre les hommes de Magellan, contre Magellan, ils se battaient parce que c'est aussi un témoignage qui dit ça, les hommes de Magellan avaient violé leurs femmes.
Un peu plus tard, à Cebu, les survivants, il y a un banquet où ils sont tous massacrés. Martyr d'Anghiera, le chroniqueur italien qui est à la cour d'Espagne, recueille la vie d'un marin italien qui dit « Nous avons été massacrés en raison du viol des femmes indigènes ». C'est sans doute une des raisons fortes qui a conduit le roi de Cebu à sévir contre les marins
de Magellan.
Oui.
S'empare d'une lame invisible, puis solennellement désigne le port où s'alignent les grues, là où jadis il a vécu une forme de bonheur indicible, avec sa femme, son chien, ses filles. Il se dit je suis encore chaud, j'aime bien mourir maintenant.
Le penseur de Benjamin Biolay.
Le fil de l'histoire sur France Inter.
Avant de quitter Séville, Magellan avait écrit dans son testament que s'il venait à mourir pendant le voyage, il voulait que son corps soit enterré dans l'église la plus proche, consacrée à la Sainte Vierge. Il n'en sera rien, puisque Lapu Lapu, le roi de Mactan, a refusé de restituer le corps de Magellan. C'est donc sans avoir pu lui donner une sépulture chrétienne que l'expédition s'apprête à repartir. À la tête de la flotte, plusieurs hommes au fil des mois vont succéder à Magellan. Quant à l'équipage, il ne reste plus que 113 hommes, un nombre insuffisant pour assurer la manœuvre des trois navires. Alors, le 2 mai 1521, sur l'île de Bohol, aux Philippines, on décide de sacrifier l'un des bateaux, la Concepcion, qui est le plus avarié et qui prend l'eau de toutes parts. Après avoir retiré du navire les cargaisons et tout ce qui pouvait encore servir, on met le feu à la Concepcion.
Moi, Carvalho, capitaine général de la flotte, j'ai donné ordre qu'on vide la Conception de toute marchandise, qu'on enlève la moindre planche, le moindre clou. Nous n'étions pas assez pour armer trois navires. Il fallait sacrifier une nef. La Conception brûle.
De la brillante et fière flotte qui avait quitté Séville 2 ans plus tôt, il ne reste donc plus que le Trinidad, le vaisseau amiral, et la petite Victoria. Après une longue errance, les deux navires arrivent enfin aux Moluques, les îles tant désirées pour leurs épices, en particulier le clou de girofle. Antonio Pigafetta, qui est toujours de l'aventure, note dans son journal « Vendredi, 8e de novembre 1521, 3 heures avant le tramontin du soleil, nous entrâmes dans le port d'une île dite Tador, l'actuelle Tidore, une île d'Indonésie. Espinosa et Elcano, qui commandent maintenant la flotte, signent des traités de paix avec le roi local, ainsi qu'un accord commercial sur les épices. Il faut maintenant rentrer en Espagne. Les deux commandants décident d'emprunter des chemins différents. Le premier, sur la Trinidad, passera par le Pacifique, le chemin que Magellan avait prévu. Le second, sur la Victoria, par l'océan Indien et le Cap de Bonne-Espérance, des eaux en principe réservées aux Portugais. Mais le 21 décembre 1521, seule la Victoria, chargée à blocs d'épices, peut appareiller. « Nous nous sommes tous quittés en pleurant », note Pigafetta. Si la Trinidad, raisonnée par les Portugais, ne réussira pas à rentrer, la Victoria, elle, commandée par Elcano, sera la seule à faire son entrée en Espagne le 6 septembre 1522.
Et voilà !
La Victoria, un navire de la flotte de Magellan.
Elcano écrit alors à l'empereur Charles Quint : Nous avons découvert et arrondi toute la rotondité du monde.
C'est le plus grand exploit qui ait jamais été réalisé depuis la création du monde.
Michel Chandaigne, les hommes de la Victoria ont conscience d'avoir accompli un exploit extraordinaire. Est-ce que le fait d'avoir fait le tour du monde, c'est un exploit pour eux?
Alors, le mot exploit est complètement anachronique. Hein. C'est lié aux exploits sportifs de la fin du 19e. Ça commence là. À l'époque, on faisait aucun exploit. Mais ils se rendent compte, en effet, qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. En arrivant ils font escale au Cap-Vert, on va en parler, ils s'aperçoivent qu'il y a un décalage d'une journée avec leur propre calendrier. Et l'explication va venir vite. En faisant le tour du monde, ils vont rattraper les fuseaux horaires. Et comme dans le livre de Jules Verne, ils vont gagner un jour. Donc ça va étonner les gens. Quand la Victoria arrive, avec ses morts-vivants dessus, ils sont vraiment étonnés. Et là, on se rend compte qu'ils ont fait quelque chose d'exceptionnel, quoi. Alors, la navigation d'Alcano, maintenant, vu aujourd'hui, en effet, c'est un exploit, parce que de Timor au Cap-Vert, 151 jours de navigation sans escale, hein, 50 de plus que pendant le Pacifique. Elcano prend une route très au sud. Il est contre les vents dominants, hein. 151 jours, c'est un exploit. Alors, il passe pas loin des îles Amsterdam, qu'il voit, il double le Cap de Bonne-Espérance, et là, le scorbut commence à se déclarer. Alors, 151 jours, ils sont protégés par le scorbut. Alors cette fois-ci, c'est pas le céleri, ça c'est notre édition qui le montre, c'est les noix de coco. Et ils font chargement de noix de coco énormément en Inde, et dans la noix de coco, vous avez de l'eau, de la nourriture et de la vitamine C. Mais visiblement, la provision de noix de coco s'épuise en route, et donc le scorbut commence à sévir, et les morts commencent à tomber, et donc là, ils décident de faire escale au Cap-Vert, c'est territoire portugais, c'est très dangereux. Les Portugais s'aperçoivent qu'ils reviennent des Indes, parce qu'ils ont des girofles, et font prisonniers 12 hommes qui sont retenus au Cap-Vert. Et ces 12 hommes vont revenir à Séville très peu de temps après. Donc sur la Victoria, il n'y a pas 18 survivants, il y a 30 en tout, qui ont fait le tour du monde, et parmi eux, un Français, Richard de Faudis, un charpentier d'Evreux.
Oui. Voilà. Il y a les 55 aussi qui ont déserté du San Antonio.
Oui, 55, qui sont arrivés le 6 mai 1521, donc ça fait 55 survivants de plus. Et la Trindade, eh bien, il y a parmi les marins qui ont été faits prisonniers des Portugais, après la malheureuse tentative de retour par le Pacifique, eh bien, il y en a 5 qui vont arriver 4 ans plus tard, et qui eux aussi vont faire un tour du monde. Ce qui fait qu'il y a en tout 90 survivants à cette expédition, où il y a eu 237 hommes au départ de Séville, il y en a 3 qui montent aux Canaries et un à Rio de Janeiro, donc ça fait 241, donc c'est beaucoup plus que les 18 que l'on retient habituellement.
Et pourquoi dit-on que ce voyage de Magellan est le plus grand exploit, enfin maritime, je dis exploit avec notre regard évidemment du 21e siècle, le plus grand exploit maritime de tous les temps? C'est ce que vous dites, Michel Chandaigne.
Oui, parce que bon, en effet, il y a un premier tour du monde, et encore aujourd'hui, pour les marins, le tour du monde, hein, c'est le Graal de la navigation. On savait que la Terre était sphérique, mais...
C'était abstrait.
Le fait de faire le tour fait que, ben voilà... C'est fixé, c'est et les cartographes n'auront plus qu'à remplir les blancs dans les cartes, mais la dimension du monde est soudainement figée, fixée. Et puis c'est un voyage de 3 ans, avec 2 navigations en haute mer, celle d'Elcano, celle traversée du Pacifique, qui sont vraiment des choses complètement inédites à l'époque.
En termes de bilan, je me posais la question, est-ce que ce voyage de Magellan est un succès ou un échec? Ça dépend un peu du regard qu'on prend, celui du XVIe siècle. Comment Magellan a-t-il été perçu par ses contemporains?
Magellan a été ignoré finalement, il a le droit à quelques lignes chez les chroniqueurs. Pour les Portugais, c'est un traître. Alors les Portugais ont pu garder les Moluques, mais le Magellan a été un peu effacé de l'histoire, c'est pas un héros national. Pour les Espagnols, c'est presque pire, hein, parce que cette expédition a été ruineuse pour eux. Cette expédition est complètement déficitaire.
Ah, c'est un échec commercial.
C'est un échec commercial. Les Espagnols n'ont pas pu obtenir les Moluques. Le bénéfice pour les Espagnols, c'est qu'ils pourront revendiquer 60 ans plus tard la possession des Philippines. Les Philippines vont devenir espagnoles. Mais pour Magellan, c'est un échec total. En plus, sa femme est morte pendant son voyage, son jeune fils
enfants,
aussi,
oui.
Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un perdant magnifique, quoi. Il a tout perdu.
Vous l'aimez beaucoup.
Il a échoué. Ben oui, mais pas que moi.
Non, bien sûr, c'est un personnage.
Tout le monde est fasciné.
Fascinant.
Parce que justement, c'est pas un conquistador. C'est quelqu'un qui a échoué, mais dans son attitude, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Et toutes les péripéties du voyage sont passionnantes. Beaucoup grâce au récit de Pigafetta, d'ailleurs, qui sait les rendre intéressantes. On ne sait pratiquement rien de Magellan dans les récits, mais on voit cet homme volontaire qui va vers sa perdition. Et pour nous, évidemment, c'est ce qui nous touche, c'est cet homme perdu dans le monde, l'ingratitude de sa patrie, l'attitude des Espagnols. Et le seul pays au monde où finalement il a été vraiment honoré, c'est le Chili. Il est une sorte d'héros national au Chili. D'ailleurs, c'est là où il y a toutes les statues de Magellan. Il y a une province qui s'appelle Magallanes.
Parce que le détroit de Magellan se trouve en territoire chilien.
Chilien, entièrement. Et donc, là-bas, il est admiré en héros. D'ailleurs, la première biographie de Magellan, c'est fait par un Chilien en 1864. Les premiers recueils de textes, on s'en est beaucoup servi, par un autre Chilien. Tandis qu'en Espagne, il n'y a aucune statue. En Portugal, il y en a une. Érigée en 1960, qui est offerte par le gouvernement chilien. Et c'est pour ça qu'il a été si peu étudié que notre édition, nous, Français, les premiers à le faire, récemment, parce que Magellan ne pouvait servir aucune histoire nationale, aucune histoire patriotique, notamment sous les dictatures franquistes et salazaristes. Donc il a été délaissé par les historiens officiels pendant des siècles.
On a commencé à l'aimer
avec Stefan
Zweig. À la fin
Zweig.
Du 19e siècle, grâce à Stefan Zweig, même
Stefan
si c'est
Zweig
trompé.
Qui l'a fait connaître
c'est un
au
très
grand
beau
public.
Livre. Oui.
C'est un très beau livre, magnifiquement écrit, très intéressant, mais plein d'erreurs, faut quand même le dire.
Merci beaucoup Michel Chandaigne de nous avoir rappelé cette belle histoire. Sur le sujet, je conseille vivement la lecture de Le Voyage de Magellan, la relation de Pigafetta et autres témoignages aux éditions Chandaigne et Lima. À voir une exposition immersive, Magellan, un voyage qui changea le monde, au Musée de la Marine à Paris du 22 octobre 2025 au 1er mars 2026. Cette émission a été réalisée par Claire Destacant, assistée d'Anne-Cécile Perrin et de Frédéric Martin, à la technique Loïs Moreau. Rendez-vous lundi pour une nouvelle série du Fil de l'Histoire. À l'occasion de la commémoration du 11 novembre, nous parlerons de la Première Guerre mondiale, mais pas pour évoquer les batailles de Verdun ou de la Somme, mais des autres fronts en Europe et dans le monde qui eux aussi furent décisifs, mais dont on ne parle jamais. À lundi, 14h04.